Le titre du message aujourd'hui, caractéristiques bibliques de la vraie Église de Dieu. Alors, ce que je vais faire dans le message aujourd'hui, c'est que je vais tirer de la Bible elle-même un grand nombre d'éléments qui nous permettent d'identifier quelle est la vraie Église de Dieu dans le monde de confusion générale où nous vivons. Dieu nous donne dans sa parole tous les éléments dont nous avons besoin quand il nous appelle pour être capable de prouver où est sa petite Église, qui sont ses serviteurs, quelle est la vraie Église que le Christ a fondée et qui a pour mission jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, d'annoncer les choses qui viennent et d'aider ceux que Dieu appelle. Le Christ est venu sur la terre il y a environ 2000 ans pour deux raisons. Première raison, il est venu pour donner sa vie. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Deuxième raison, il est venu pour fonder son Église. Et il a fondé une Église, son Église, en lui confiant la mission précise d'accomplir un travail jusqu'à ce qu'il revienne, d'annoncer la bonne nouvelle qu'il y aurait un gouvernement mondial sous sa directive qui allait être établi sur la terre après son retour, comme on voit dans les textes. Alors, les prophéties de la Bible, les Écritures, révèlent avec précision quelle est cette Église qu'il a fondée, de qui elle se compose et comment on peut la reconnaître. En d'autres termes, la Bible nous donne clairement les caractéristiques qui identifie l'Église de Dieu, la vraie Église de Dieu, hors de tout doute. Et c'est à chacun que Dieu appelle de prouver les choses. Moi, je ne peux pas prouver rien à personne. Je ne peux prouver rien à personne. Je vous donne les versets bibliques, c'est à vous de vérifier les choses. D'abord, mentionnons simplement que l'Église, ce n'est pas une bâtisse. L'Église, ce n'est pas une bâtisse. L'Église de Dieu, en fait, c'est l'ensemble de ceux et celles que Dieu attire au Christ, et qui choisissent de vivre selon les enseignements de Jésus, qui changent leur vie dans ce sens-là. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 12, verset 27. L'apôtre Paul en parle clairement. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, Paul parle que le corps de Christ, ce sont les serviteurs de Dieu que Dieu attire au Christ. Et c'est ça qui forme son Église. Il est écrit, « Vous êtes », et il s'adresse aux membres de l'Église de Corinthe, « Vous êtes le corps de Christ, les membres de l'Église. » Voyez-vous, c'est le corps de Christ qui est l'Église. « Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Chacun son rôle à jouer. Le ministère a un rôle à jouer. Nous avons la responsabilité d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Ça, c'est le travail du ministère. Ce n'est pas le travail des membres d'aller de porte en porte puis d'essayer de convertir les autres. C'est le travail de l'Église. Chacun a son rôle à jouer. Maintenant, je pose une question toute simple. Qui peut faire partie de cette Église? Qui peut faire partie de cette Église? Ce sont ceux que Dieu appelle. Ce sont ceux que Dieu invite. Il faut que le Père invite. Et à qui il donne de commencer à comprendre certaines choses. Sans que le Père ne donne de comprendre certaines choses, c'est impossible. Et on ne peut pas reprocher à qui que ce soit de ne pas comprendre certaines choses tant que Dieu ne les appelle pas. Ça, c'est le principe. C'est, bien sûr, quand Dieu nous attire au Christ, il ne nous force pas. On est libre d'accepter ou non. Un certain nombre acceptent, beaucoup n'acceptent pas de ceux qui sont appelés. Mais dans tout ça, ce qu'on réalise, c'est que c'est le Père qui prend l'initiative de nous appeler. Ce n'est pas nous, un bon matin, qui a décidé de comprendre la vérité. Si vous commencez à comprendre quelque chose, comme ça a été le cas pour moi dans le passé, c'est parce que Dieu vous l'a donné. Ce n'est pas parce qu'un homme vous a convaincu, c'est parce que Dieu vous l'a donné. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé de comprendre que vous avez commencé à comprendre la Bible, c'est parce que Dieu vous l'a donné. Et ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que d'autres, absolument pas. Dieu dit qu'il appelle les choses faibles et folles du monde même. Alors c'est ça, Dieu nous donne de comprendre. Le principe est clair, vous irez voir dans Jean 6, 44. Jean 6, 44, et c'est répété au verset 65. Très clair. C'est le Christ qui parle. Il dit, « Nul ne peut venir à moi. » Donc, nul ne peut devenir chrétien. Nul ne peut faire cette démarche si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ce que je viens de vous dire, c'est l'initiative du Père qui met dans l'esprit de quelqu'un de vouloir chercher. Et cette invitation-là, cet appel-là, est adressé à plusieurs. Mais on se rend compte que c'est seulement un petit nombre de personnes, à notre époque, qui décident de répondre à l'appel, qui choisissent de commencer à changer leur vie. C'est exigeant quand on change notre vie. On devient contraire à ce qu'on était avant dans bien des domaines et les gens autour ne nous comprennent pas parce qu'on change de façon de faire, de vivre et tout ça. Ça peut sembler bizarre et c'est normal. On réagirait de la même façon. Mais je vous donne le processus pour qu'on voit ce qui se passe. Alors, ce sont ceux-là que le Christ choisit, ceux qui décident, parmi les appelés, de mettre en pratique ce que Dieu leur révèle. C'est ceux-là que le Christ choisit maintenant. Il y a une autre étape, être appelé, mais après ça, il faut être choisi. Vous irez voir dans Jean 15, verset 16, très, très clair. C'est encore le Christ qui parle. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Est-ce que ça peut être plus clair? Le Christ dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Pensez pas que vous êtes brillant, puis que c'est vous qui avez décidé de trouver la vraie Église, ou que c'est vous qui avez décidé de commencer à comprendre que Dieu avait un plan, que le Christ va bientôt revenir sur la terre, qu'il va établir un gouvernement et tout ça. Ce n'est pas vous. Ça vous a été donné. Et moi, je vous ai choisi. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Que vous portiez du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de vie, qu'on porte le fruit de la nouvelle vie qu'il nous montre de mettre en pratique. C'est ça. Il dit, je vous ai choisi pour que vous alliez plus loin. Vous avez été appelé. Je vais vous aider. Je vous ai choisi pour que vous alliez plus loin, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père, là, il y a une promesse extraordinaire. En mon nom, il vous le donne. Voyez-vous? Parce que Dieu répond à ceux qui lui demandent, mais ceux qui font sa volonté, qui cherchent à faire sa volonté. Alors, il y a plusieurs personnes dans le monde qui sont appelées, mais il y a très peu qui décident d'agir. Il y a très peu qui sont à ce moment-là, donc, choisis par le Christ, qui deviennent des élus. Le mot dans la Bible pour désigner les appelés, qui sont ensuite choisis par le Christ, c'est le mot « élu ». Mais là, je ne vous apprends rien. Quand il y a des élections, qu'est-ce qui arrive? Les gens choisissent quelqu'un pour les représenter. La personne a été élue, elle a été choisie. C'est ce que le Christ nous dit ici. Il dit, parmi tous ceux que le Père attire à moi, moi, dans ceux-là, dans ceux qui prennent à cœur de mettre en pratique ce que je leur ai montré dans ma Bible, dans ma parole, c'est qu'à ce moment-là, j'en choisis un certain nombre pour faire partie de mon corps, du corps du Christ, de la petite Église de Dieu des temps de la fin. Et c'est pour ça que si vous allez dans Matthieu 22, verset 14, il est écrit, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc, le Christ peut en choisir seulement un petit nombre, parce qu'il y a seulement un petit nombre qui, avec cœur, décide de mettre en pratique les choses de Dieu et de suivre son gouvernement. Maintenant, je vais plus loin. Pourquoi certains deviennent-ils des élus, des choisis du Christ, en vue d'être préparés pour le monde à venir? Parce qu'on sait que Dieu prépare une petite équipe sous le Christ pour rebâtir le monde après la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient, après la Grande Détresse, pour être capable de guérir les nations, de les encourager, de leur enseigner, de leur montrer ce qui est arrivé dans l'histoire, de leur montrer les lois de Dieu, de leur montrer les fêtes de Dieu qu'ils devront observer à ce moment-là, et ainsi de suite. Alors, certains deviennent des élus parce qu'ils ont commencé à observer les lois de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont commencé à observer les lois de Dieu. Ils ont commencé aussi à célébrer ses fêtes, parce que ça va avec. C'est un « package deal », comme ils disent en anglais. On ne peut pas choisir à la carte. Moi, je dis, tiens, je vais juste observer le sabbat, mais les fêtes, ça, c'est pour les Juifs, ou c'est l'Ancien Testament. C'est pas pour nous maintenant. Alors qu'on voit que le Christ, ses disciples, même l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, a observé les fêtes et tout ça, et on voit que ça va être observé dans le monde à venir. Alors, ceux qui commencent à observer les fêtes de Dieu, à obéir à ses lois, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu leur donne à ce moment-là un peu de sa puissance, de son Saint-Esprit, à ceux-là qui se mettent en marche. C'est à eux qu'il donne un peu de son Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'ils soient capables d'aller plus loin, qu'ils soient capables de changer dans leur vie les choses qui ont à changer pour lui plaire, pour vivre selon ses lois. Voyez-vous le processus, comment les choses se passent? C'est clairement expliqué par Pierre, dans une toute petite phrase que vous pouvez trouver dans Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32, Pierre nous dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. » Comprenez-vous? À qui Dieu donne son Saint-Esprit? Pas à tout le monde. Pas à tout le monde qui dise, « J'aime le Seigneur, je donne mon cœur au Seigneur. » Ça peut être sincère, mais ce ne sont pas les personnes à qui Dieu donne son Saint-Esprit pour être capable de comprendre, pour être capable d'aller plus loin. Pierre dit, « Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. » Alors, pour être chrétien, pour être un vrai chrétien, selon le Christ, selon la Bible, il y a comme deux conditions de base, disons. La première condition, c'est d'abord de choisir de vivre selon ses lois. On a un choix à faire. Quand il nous appelle, on a un choix à faire. Je te dis tantôt, on accepte ou non l'invitation. Mais si on l'accepte, là, il faut aller plus loin, mettre en pratique les choses qu'il nous montre. Au début, il ne nous a pas encore tout montré. Il va nous montrer au fur et à mesure. La première condition pour être un vrai chrétien, c'est de commencer à vivre selon les voies de Dieu. Et la deuxième condition pour être un chrétien, elle vient automatiquement. Parce que si je fais ça, Dieu me donne un peu de son Saint-Esprit, de sa puissance. Les deux choses. Commencer à mettre en pratique les lois de Dieu. Et là, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, comme on a vu dans Acte 2, Acte 5, verset 32. Je vais aller plus loin. Et là, je vais vous donner une définition biblique, très simple et très claire de ce qu'est un vrai chrétien. Pas de ce que Pierre-Jean-Jacques parle, de ce que Dieu a inspiré sa Bible de décrire. Claire définition d'un chrétien, Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et après, c'est le dernier membre de ce paragraphe-là sur lequel je veux attirer votre attention et là où est la réponse de ce qu'est un vrai chrétien. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Très, très simple. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment est-ce qu'on peut avoir l'Esprit de Christ? Il faut d'abord être appelé par le Père et après vouloir mettre en pratique ce qu'on apprend. Et là, à ce moment-là, le Christ nous choisit. On continue à vouloir mettre en pratique. Et là, Dieu nous donne un peu de son Saint-Esprit avec nous pour être capable d'aller plus loin. Voilà le phénomène qui se produit. Et pourquoi la Bible peut définir clairement que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce n'est pas négatif envers les autres. Ils auront leur chance au bon moment. Dieu n'est pas injuste. Absolument pas. Et pour ceux qui sont appelés, ça demande du courage. Ça demande de la détermination, parce que ce n'est pas des choix faciles. Là. On change des choses dans notre vie. Moi, j'en ai changé au début. On a perdu des amis. On a perdu des avantages qu'on avait. Perdu le travail, parfois, ou des choses comme ça. Mais il y avait des choix à faire en cours de route. On les a faits. Dieu a béni. Et parfois, ça a été extrêmement difficile. Mais ça faut du courage, faut de la détermination, même pour changer. Parce que quand on change, on ne fait plus les choses comme avant. On ne fait plus les mêmes sorties. On ne fait plus les mêmes extravagances qu'on faisait tous avant, en tout cas la plupart. Donc, les gens autour qui nous voient faire ça trouvent ça bizarre, ils ont raison, mais on ne veut plus vivre comme avant. C'est ça la différence. Mais on est en train de devenir des enfants de Dieu. On développe la culture de Dieu, la façon de penser de Dieu. Et ces gens-là qui sont appelés et qui se mettent en marche comme ça, comprennent de plus en plus. Pourquoi? Parce que plus Dieu voit qu'on met en pratique ce qu'il nous dit, plus il nous donne de son Saint-Esprit. Pour être capable d'aller plus loin. Plus on comprend qui il est, plus on comprend son plan, plus on comprend le but de la vie. Que la vie, ce n'est pas simplement métro, boulot, dodo, puis ensuite le cercueil et c'est terminé. Merci, bonsoir. Non, Dieu a un plan pour les êtres humains. Et plus on met en pratique les lois de Dieu, plus on reçoit ses bénédictions. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pas parce qu'il nous enlève toutes les épreuves. Au contraire, parfois, les épreuves sont utiles pour nous aider à apprendre des choses. On est là pour apprendre. Même Paul disait, par mes souffrances, je complète ce que l'Église a besoin, parce que c'est lui qui avait besoin d'apprendre des choses. Et c'est la même chose pour nous également. Mais le Christ décrit certaines des bénédictions que Dieu donne à ceux qui sont appelés, qui sont choisis par le Christ parce qu'ils se mettent en marche et qui veulent changer. Matthieu 5, les Béatitudes. Je vous en donne simplement trois rapidement. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde totalement injuste à tout point de vue, à tous égards, un monde de souffrance. Et Dieu dit, si on a faim et soif de sa justice à lui, que nous allons être rassasiés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et il y en a des affligés partout sur la planète actuellement. Et ceux qui se tournent vers Dieu, qui sont appelés, qui mettent en pratique les lois, Dieu dit, je vais vous consoler, je vais vous donner ce qu'il faut pour passer à travers. Parfois, je vais enlever l'épreuve, mais parfois, je vais vous laisser dans l'épreuve, mais vous donner la force de passer à travers. Dieu prend soin de ses enfants. C'est un bon papa. Troisième élément que je vous donne des béatitudes, heureux les débonnaires. Débonnaire, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent dans la conversation. Mais si vous allez voir dans les dictionnaires, débonnaire, ça veut dire quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est enseignable. Si on est enseignable, c'est parce qu'on apprend. C'est quelqu'un qui obéit. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Il dit « Heureux les débonnaires », donc ceux qui s'appliquent à lui obéir. Mais regardez la promesse qui vient après. « Car ils hériteront la terre. » C'est clair, hein? Ce qui attend ceux qui ont passé à travers les épreuves de la vie actuellement en étant enfants de Dieu puis en faisant les sacrifices qu'il faut, il dit « Ils vont hériter la terre. » C'est eux qui vont administrer la terre lorsque le Christ va revenir. Maintenant, des fois, les gens nous demandent une question que je trouve intéressante. Comment savoir que je suis appelé? Comment est-ce que je peux savoir que Dieu m'appelle? J'ai pas reçu un coup de téléphone, il n'y a pas rien d'autre qui s'est passé. Je vais vous donner trois petits signes faciles à identifier. Il y en a d'autres, mais je vous en donne trois. Le premier, c'est que tout à coup, on commence à avoir un intérêt réel pour découvrir qui est Dieu. Est-ce qu'il existe? C'est qui? Pourquoi? Pourquoi je suis là? C'est quoi le but de la vie? Il commence à avoir un intérêt réel pour aller plus loin et savoir ce que l'avenir nous réserve aussi. Parce que s'il y a un Dieu, peut-être qu'il y a un plan. S'il y a un Dieu, on nous a dit qu'il était tout-puissant. Vous savez, là, on commence à mijoter là-dessus. On veut savoir. Il y a un intérêt réel qui n'était pas là avant et qui apparaît. Et là, on commence à chercher. Moi, je me rappelle, s'il y a quelqu'un qui n'était pas religieux, il est devant vous. Dès qu'il était question de religion, j'étais pas là. Je voulais rien savoir des choses religieuses. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, quand j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, il y a quelqu'un qui m'avait abonné à une revue qu'on appelait La Pure Vérité, qui était la revue publiée par l'Église il y a plusieurs années, c'était à la fin des années 1960. Et puis, j'avais commencé à recevoir cette revue-là. Je ne m'étais pas abonné. Quelqu'un m'avait abonné, je ne sais pas qui, un collègue. Et puis, il y avait des articles intéressants là-dedans. Pas tous. Dès qu'il y avait un article qui parlait de religion, je n'étais pas là. Mais, il y avait des articles qui parlaient de politique internationale, de ce qui se passait sur la scène mondiale, du développement des événements. Ça m'intéressait. Alors, j'ai lu ça pendant un certain nombre d'années, puis je gardais mes revues, j'empilais ça de chez moi. Et ça a pris un certain nombre d'années avant que ça mûrisse, avant que le fruit soit mûr. Mais je n'étais pas religieux, mais il y avait un intérêt. Dieu s'est servi de ça, et l'histoire de chacun, elle est différente, à des âges différents, selon des circonstances différentes. C'est formidable. Mais d'abord, on commence par avoir un intérêt. Ce n'est pas nous qui avons développé l'intérêt. C'est lui qui l'a mis dans notre esprit. Deuxième signe auquel on peut savoir qu'on est appelé, c'est que la personne appelée commence à comprendre, commence à entrevoir des choses qu'elle n'avait pas réellement comprises comme ça jusqu'alors. Par exemple, le fameux sabbat. Vous savez que le sabbat est pour les Juifs? Hein? C'est plus de mise aujourd'hui, ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, les choses que j'avais à l'esprit et tout. Mais après que j'ai commencé à chercher et à vérifier des choses, je me suis rendu compte que quand Dieu a créé le sabbat, il n'y avait pas beaucoup de Juifs qui étaient présents. À ce moment-là, il y avait juste Adam et Ève, puis ils n'étaient pas Juifs. Les Juifs sont arrivés juste plus tard dans l'histoire. Alors, voyez-vous, et on se rend compte que le sabbat est toujours en vigueur. Tout à coup, on commence à comprendre, parce que Dieu nous donne de son esprit, parce qu'on commence à l'observer, on commence à comprendre que le sabbat, ça représente le septième millénaire qui est sur le point de commencer avec le retour de Christ bientôt, le premier millénaire de son règne sur la terre. Le millénium. Alors donc, la personne appelée commence à voir aussi un lien très clair entre les prophéties qui sont marquées dans la Bible et les événements qu'on voit être décrits dans les bulletins de nouvelles ou dans les premières pages des journaux. On commence à faire le lien. On dit donc, ce Dieu-là, qui est tout-puissant, a été capable d'écrire longtemps d'avance les choses que nous, on voit à notre époque devoir arriver. Et c'est à notre époque qu'il doit y avoir le plus de prophéties qui s'accomplissent. Alors, la personne commence à voir les liens entre les prophéties du temps de la fin puis ce qui se passe dans notre monde. Par exemple, on commence à comprendre qu'il y a formation de la dernière résurgence en Europe de l'Empire romain qui va amener la catastrophe mondiale et ainsi de suite. On ne comprenait pas ça avant, mais là, on commence à faire les liens. Et ce qui était juste jusque-là incompréhensible, mystérieux, ça commence à devenir plus clair. Et ça, c'est motivant. Et le rôle des ministres, dans ce sens-là, c'est d'aider les gens que Dieu appelle à comprendre ces choses-là et à se préparer spirituellement à changer les choses qu'ils ont à changer. On a la responsabilité d'aider les appelés à comprendre de plus en plus ce qu'on peut appeler, sans se tromper, le mystère de Dieu. Parce qu'avant que Dieu nous appelle, tout ça, c'était un mystère. Et Dieu nous donne de lever le voile sur le mystère. Et pour le moment, le monde entier est encore voilé, ne voit pas le plan de Dieu, ne comprend pas Dieu. Même si des gens sont dans toutes sortes de religions avec le plus de sincérité possible, beaucoup de zèle et tout ça, ils ne comprennent pas encore le plan de Dieu. L'apôtre Paul, d'ailleurs, a clairement souligné ce fait-là. Vous irez voir dans Colossiens 1, versets 25-26. Paul dit, c'est pour ça qu'il a été ordonné ministre, pour faire connaître le mystère de Dieu. Parce que c'est un mystère pour tout le monde. Il dit au verset 25, « C'est d'elle, de l'Église, c'est Paul qui parle, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Ça va? Le ministère a la responsabilité d'expliquer la parole de Dieu. C'est au ministre à faire ça. Bon. Maintenant, il définit tout de suite après c'est quoi la parole de Dieu, puis là, ça va répondre à ce que je viens de soulever comme point. Il dit, « Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. » La parole de Dieu, c'est un mystère caché par Dieu de tout temps et dans tous les âges, parce que le temps n'était pas venu pour révéler à l'ensemble de l'humanité son plan. Il va le faire après le retour de Christ. Là, il va lever le voile sur toutes les nations. Dieu procède par étapes. Maintenant, il appelle une petite équipe en préparation dans l'enseignement des nations après le retour de Christ. Mais Paul dit, « Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Quels sont les saints? Les saints, ce sont les membres de l'Église, ceux que Dieu sanctifie. Être saint, ça veut dire être mis à part par Dieu pour un but spécial. C'est ça, les saints de Dieu. C'est pour ça que les apôtres écrivaient aux saints qui sont à Corinthe ou aux saints qui sont... C'était les membres de l'Église, tout simplement. Ça, c'est la compréhension que Dieu nous donne. Mais l'apôtre Paul nous dit, j'annonce la parole de Dieu, c'est le mystère caché de tout temps pour toute l'humanité, mais révélé maintenant à ceux que Dieu appelle. Troisième signe auquel on peut savoir que Dieu nous appelle, c'est qu'on commence réellement à désirer changer de tout cœur. C'est pas facile. Au début, on désire changer, mais c'est pas facile. On n'est pas enclin à vouloir abandonner nos habitudes, ce qu'on aime, qui est contraire à la loi de Dieu. Mais il faut le faire. Mais quand Dieu nous appelle, on fait le chemin graduellement, il nous donne de plus en plus de son esprit, et on commence à désirer vraiment changer pour faire sa volonté, puis recevoir aussi ses bénédictions. Maintenant, je vous donne d'autres prophéties de la Bible, ou d'autres passages des Écritures, qui nous permettent d'identifier la vraie Église. Là, je vous fais un petit plan avec plein de points où vous allez pouvoir avoir, avec cette grille-là, voir quelle est la vraie Église. Est-ce que vous êtes dans la vraie Église? Que vous soyez convaincu. Si vous êtes en train de la chercher, que vous puissiez la trouver avec la grille biblique que je vous donne. Un autre point, vous allez le trouver dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, verset 18. Le Christ déclare ceci. Je bâtirai mon Église. J'ai souligné le mon. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon Église. Donc, on doit automatiquement conclure que le Christ a une Église. Écoutez, de toute façon, le Christ, est-ce qu'il pourrait être le chef de différentes églises chrétiennes qui enseignent différentes choses et qui croient différentes choses et qui vivent différentes choses? Le Christ n'est pas divisé contre lui-même. Le Christ, il est un. Il y a un esprit, un baptême, une seule église, une seule famille de Dieu. OK? Plus tard, les gens seront appelés à faire partie. Mais maintenant, il y a un petit troupeau qui est appelé. Alors, le Christ dit, je bâtirai mon église, et non pas mes églises. Le Christ ne peut pas être le chef d'une église qui dit que lorsque les gens meurent, ils s'en vont au ciel ou en enfer. De toute façon, l'enfer n'existe pas. On a des émissions là-dessus et des documents. Et quand on meurt, on ne va pas au ciel. Absolument pas. Et c'est pour ça qu'il y a la résurrection, parce que, je ne vous cacherai rien, les morts sont morts. Donc, ils ne sont pas vivants quelque part. Les morts sont morts. Et c'est pour ça que la Bible parle tellement de résurrection, c'est que Dieu, qui est juste, va ramener à la vie tous ceux qui ont existé selon un plan bien, bien déterminé. C'est formidable. Alors, le Christ est le chef de son Église et non pas des Églises chrétiennes. Même si dans les Églises chrétiennes, vous avez beaucoup de gens qui sont sincères, dévoués, mais ils ne comprennent pas pour l'instant encore le plan de Dieu. Ils ne sont pas encore appelés par Dieu. Un autre point qui identifie la vraie Église de Dieu. Vous irez dans Luc, Luc chapitre 12, verset 32. Je vous lis rapidement la phrase que le Christ donne. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ça, c'est l'héritage qui attend ceux qui sont humbles, les débonnaires là, qui veulent mettre en pratique les lois de Dieu, de nous donner la gouvernance du monde sous le Christ, lorsque le Christ sera venu. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention dans cette phrase-ci, « Ne crains point, petit troupeau. » Donc, la vraie Église de Dieu ne sera jamais un grand troupeau d'ici la fin. Ce sera un énorme troupeau après le retour de Christ, parce que l'ensemble de l'humanité sera appelé. Mais pour le moment, c'est un tout petit troupeau. Ça, c'est l'Église de Dieu. Maintenant, je vais plus loin. Un autre point qui prouve, qui donne une caractéristique de l'Église de Dieu. Les croyances et les enseignements de cette petite Église doivent être entièrement et exclusivement basé sur la Bible, sur la parole du Christ. On ne peut pas donner nos points de vue, ce qu'on pense nous. Ça n'a aucune importance et aucune valeur. Nous devons prêcher ce que le Christ nous a demandé de prêcher. D'ailleurs, si vous allez voir dans Matthieu 28, versets 19 et 20, Matthieu 28, versets 19 et 20, juste avant de retourner au ciel, regardez ce que le Christ a dit à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas rien laisser de côté. On ne peut pas ajouter non plus, mais on ne peut rien laisser de côté. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à ce que le monde n'existe plus, mais jusqu'à la fin de la présente société méchante qui souffre à cause des mauvais choix que nous avons faits. Alors, c'est pour ça que dans l'Église du Dieu vivant, nous avons la responsabilité d'enseigner exactement ce que la Bible nous donne. Par exemple, on ne baptise pas les bébés, on ne baptise pas les enfants. On baptise les adultes, oui, mais lorsqu'ils sont prêts, on doit les préparer. C'est l'engagement le plus important de notre vie, parce que ça implique notre vie éternelle. Alors, il faut que les gens soient prêts. Les conditions préalables, c'est d'abord de se repentir d'avoir transgressé les lois de Dieu, de vouloir changer, de demander pardon à Dieu, et là, de passer par les eaux du baptême. Et là, à ce moment-là, Dieu prend un peu du sang du Christ pour effacer toutes les fautes de notre vie passée au complet. Et après ça, un ministre de Dieu nous impose les mains pour demander à Dieu de placer son esprit dans nous. Avant ça, son esprit était avec nous, pour nous aider à comprendre. Et là, il met son esprit dans la personne qui est baptisée. Vous pourrez aller voir dans Actes 2, versets 38 et 39, où la démarche est clairement expliquée. Et comme on doit enseigner et mettre en pratique ce que le Christ nous dit, en ce qui concerne, par exemple, la Pâque, ce n'est pas les Pâques. Les Pâques, c'est les traditions humaines, égyptiennes et babyloniennes, les païennes d'autrefois, revenir à la vie au printemps, là, les lapins de Pâques et tout ce que vous voulez. La Pâque, c'est de célébrer la mort du Christ tel qu'il nous a commandé de le faire, à une date précise, le 14 de Nissan au soir, entre les deux soirs, une fois l'an. Une fois l'an, comme le Christ faisait. Et si quelqu'un pratique autre chose, est-ce que cette personne-là ou ce groupe-là peut être l'Église de Dieu? Le Christ a dit, de prendre la Pâque au moment où lui la prenait, comme ça a été décrété. On voit dans l'Ancien Testament, on voit dans le Nouveau Testament, ce sera la même chose dans le monde à venir. Autre chose aussi, avez-vous remarqué, on n'a rien à vendre. L'Église de Dieu n'a rien à vendre parce que la vérité n'est pas à vendre. La vérité n'a pas de prix. J'aimais ça, je pense, M. Appartient disait ça, la vérité n'a pas de prix. Ça a tellement de valeur qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Mais c'est défendu par la Bible de profiter monétairement de la parole de Dieu. Donc, la vraie Église de Dieu, c'est une autre façon de la reconnaître. Elle ne vend pas de littérature, de livres ou quoi que ce soit, ou de cassettes ou de vidéos. Tout est donné. C'est marqué, vous irez voir dans Matthieu 10, verset 8. Le Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Comment l'Église est financée? Dieu bénit, parce qu'il y a les lois qui a établi, les lois de la dîme. Lorsqu'on travaille, qu'on a revenu, bon, on donne volontairement à l'Église 10 % la dîme de notre revenu ou de nos intérêts. Et il y a les offrandes aussi volontaires qu'on donne. Il y a les offrandes des fêtes, mais il y a les offrandes parfois que les gens envoient. Il y a un certain nombre de personnes, même beaucoup à certaines occasions, qui deviennent ce qu'on appelle des donateurs, des gens qui reçoivent notre littérature gratuitement et qui disent « Bien, moi, je veux contribuer à cette œuvre-là. » ils font des bonnes choses et ils envoient leur argent et ça permet à l'œuvre de Dieu de fonctionner. Ça nous permet de publier autre chose pour envoyer à d'autres personnes qui veulent connaître la vérité. Autre point pour reconnaître la vraie Église de Dieu, c'est que les vrais ministres de Dieu enseignent précisément ce que la Bible dit. Ils n'ajoutent rien et ils ne retranchent absolument rien. D'ailleurs, ce ne serait pas de santé de le faire. Parce que si c'est marqué à plus d'une place dans la Bible qu'il y a des conséquences. Vous irez voir dans Apocalypse 22, versets 18 et 19. C'est marqué ailleurs, mais là, c'est précisé. Il dit, si quelqu'un ajoute quelque chose à la Bible, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et Dieu prend les choses au sérieux, vous savez. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de dire le sabbat, ça n'existe plus, cela. Dieu le retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte. C'est sérieux, là. Retrancher sa part de la vie éternelle. Donc, quelqu'un en connaissance de cause qui fait ça s'expose à des conséquences épouvantables. Et c'est pour ça qu'on se base exclusivement sur la Bible, qu'on est très prudent là-dessus. Maintenant, un autre point qui permet d'identifier la vraie Église, c'est que cette Église-là comprend qui est Dieu et elle explique qui il est. Elle explique que la divinité est composée de toute éternité de deux êtres divins seulement. Il n'y a pas une troisième personne qui est le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous pourrez aller voir dans Jean 1, verset 1. C'est très, très clair. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole, on sait que c'est le porte-parole du Père. Dans le grec, c'est logos, un porte-parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, son Père, le gouverneur de l'univers, et la parole était Dieu. Donc, il y avait deux dieux. Il n'est pas question d'un troisième ici, sinon ils l'ont oublié. Et voyez-vous, on voit ailleurs que le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, c'est la puissance de Dieu. Cette question de Trinité, si vous étudiez l'histoire un peu, ça vient de l'Antiquité. Le monde païen de l'Antiquité, babylonien, égyptien, cette idée de Trinité. Mais Dieu est formé de deux êtres divins. Et le Saint-Esprit, c'est simplement la puissance de Dieu. Je vais vous donner deux petits versets qui montrent clairement. Le premier passage que je vous donne, c'est dans Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35, ça c'est le passage où l'ange Gabriel va rencontrer la jeune Marie pour lui dire qu'elle va avoir un enfant. Et regardez de quelle façon l'ange Gabriel lui parle. Il lui dit, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, parce que Marie demandait, elle dit, « J'ai pas d'homme, je suis pas marié, comment ça va se faire que je vais avoir un enfant? » Alors l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, il définit ce que c'est le Saint-Esprit. « Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. » Il n'a pas dit « Il sera appelé Fils du Saint-Esprit. » parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a été engendré, mais il va être fils du Très-Haut, parce que c'est par la puissance du Très-Haut qu'il a été engendré, et le Très-Haut, Dieu est son Père, et le Christ a toujours prié son Père. Premier élément. Deuxième élément, vous allez voir dans Acte 1, verset 8, très clair encore. Ça, c'est le moment où le Christ allait retourner au ciel. Ses disciples étaient auprès de lui. Puis là, il avait hâte de voir quand est-ce que son royaume allait être établi. Puis il a dit, c'est pas à vous autres de connaître ça tout de suite. Mais il dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Il définit encore c'est quoi le Saint-Esprit, une puissance. « Et vous serez mes témoins, donc vous allez devoir témoigner de la vérité, à Jérusalem, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Probablement qu'ils n'ont pas compris à ce moment-là, eux, tout ce que ça voulait dire. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient très limités dans leur capacité de déplacement ou de communication. Nous, aujourd'hui, rendus au temps de la fin, nous avons la possibilité d'aller aux extrémités de la terre avec le même témoignage qui leur avait été confié et que les descendants de ces apôtres-là, de ces disciples-là, ont véhiculé au cours de l'histoire. Autre point, ça ne sera pas surprenant, parce que la vraie Église de Dieu porte le nom de qui? Pas d'un presbytère, pas de d'autres choses, elle porte le nom de Dieu. D'ailleurs, à 12 reprises dans le Nouveau Testament, c'est mentionné Église de Dieu. Et à une reprise en particulier, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3, verset 15, l'apôtre Paul parle de l'Église en disant « l'Église du Dieu vivant ». Et c'est de là, nous, en français, qu'on a tiré notre nom pour l'Église. Il parle de l'Église du Dieu vivant, et après, il ajoute ceci, « la colonne et l'appui de la vérité ». C'est pas comme dans notre monde moderne, où il y a la vérité, puis l'autre vérité, puis l'autre vérité qui est contraire à la première. L'anti-vérité, ça n'existe pas. Il y a juste une vérité. Et l'Église, elle est la colonne et l'appui de cette vérité unique. Un autre point qui identifie l'Église, j'en donne beaucoup, hein? Mais j'espérais que ce message-là nous aide les plus anciens à solidifier notre foi et que ça aide vraiment les nouveaux et ceux qui entendront le message plus tard à avoir une grille pour vérifier. Vérifier avec certitude à partir de ce que la Bible dit. Autre point, c'est que la vraie Église de Dieu enseigne les lois divines telles qu'elles sont mentionnées dans la Bible, y compris l'observance hebdomadaire du septième jour, c'est-à-dire le sabbat de Dieu, qui n'a jamais été aboli. Le Christ a bien dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Alors, l'observance du sabbat est très importante, je vais aller plus loin là-dessus. Mais ce n'est pas juste l'observance du sabbat hebdomadaire de chaque semaine. C'est l'observance des 7 fêtes annuelles de Dieu. Parce que les fêtes annuelles de Dieu, ce sont aussi des sabbats. Ce sont des sabbats annuels. Et ils ont un rôle très important à jouer dans le plan de Dieu. Parce qu'ils démontrent les étapes du plan de Dieu jusqu'au retour du Christ et après. C'est formidable. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'a pas mis des fêtes là en disant, bon, ce serait intéressant d'avoir des fêtes, ça va encourager les gens si on faisait des petites fêtes. Non, ce n'est pas ça. C'est que les fêtes sont des sabbats annuels qui représentent chacune une étape du plan de Dieu. Je n'entrerai pas là-dedans. Vous pourrez faire venir ou lire ou relire notre brochure sur les jours saints et vous allez voir les étapes du plan de Dieu. Ce qu'il y a de changé par rapport aux fêtes de l'Éternel, c'est que maintenant, depuis le Nouveau Testament, depuis l'Alliance nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Ça a été abandonné. Mais pour une raison très claire, très évidente, parce que le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, il est venu, il a donné sa vie, donc il n'y a plus besoin d'avoir ces sacrifices-là qui symbolisaient que le Christ allait venir donner sa vie. Alors, on observe les fêtes, oui, parce qu'elles n'ont jamais été abolies et elles seront observées dans le monde de demain. Mais maintenant, il n'y a plus l'offrande de sacrifice d'animaux à ce moment-là. Mais le sabbat hebdomadaire, comme les sabbats de fête annuels, les 7 sabbats, ce sont des signes majeurs identifiant qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Et en même temps, où est la vraie Église de Dieu? Vous pourrez aller lire Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 13. « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » Avez-vous remarqué? Dieu n'a pas dit « Vous ne manquerez pas d'observer mon sabbat. » Il a dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, parce qu'il y a celui de semaine, à chaque semaine, mais il y a les sept autres qui forment l'ensemble. Et il dit, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous considère saint, qui vous met à part, qui travaille avec vous pour vous préparer en fonction de l'héritage que je vous réserve pour servir les nations. Et plus loin que ça, autre signe de la vraie Église, c'est que la vraie Église annonce la bonne nouvelle du règne prochain du Christ sur la terre, afin de libérer l'humanité et d'établir une civilisation nouvelle basée sur les lois de Dieu, où il y aura paix, où il y aura abondance, où il y aura enfin le bonheur. Après, bien sûr, avoir passé ce qui est tout juste devant nous, parce qu'il y a des choses plus difficiles qui sont proches maintenant. Ça, vous pourrez aller voir dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Matthieu 24, versets 21 et 22. Le Christ nous dit que juste avant son retour, il y aura une période de détresse comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Imaginez-vous, on regarde les conséquences des deux guerres mondiales du siècle dernier. C'était épouvantable. Mais le Christ ne nous dit que ce n'est rien à côté de ce qui vient. Et quand le Christ parle, ses paroles ont une portée et arrivent. Et il dit, si ces jours n'étaient abrégés, autrement dit, si on ne mettait pas un terme à ces jours, personne n'aurait la vie sauve. Donc, personne ne serait sauvé, n'aurait la vie sauve. Mais à cause de qui? Des élus. À cause des choisis de Dieu qui préparent le terrain pour le retour de Christ, il va mettre un terme à ces jours-là de grande détresse pour que l'humanité soit empêchée de se détruire totalement. Et on annonce qu'au-delà de ça, au-delà de la grande détresse qui est tout proche, on voit les signes se préparer, se dessiner de plus en plus clairement. Au-delà de ça, ce que nous annonçons, c'est la bonne nouvelle du gouvernement mondial de Dieu. La bonne nouvelle, comme le Christ a dit, Matthieu 24, verset 14, avant son retour, il a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Ce n'était pas possible à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres originaux, pas du tout. Maintenant, ça l'est, parce qu'on a les moyens technologiques de le faire. Même si on est un tout petit troupeau, Dieu nous donne les moyens de rejoindre toute la planète. Et en ce moment, je peux vous dire, avec enthousiasme, avec joie, et avec reconnaissance envers le grand Dieu que nous servons, que nous sommes partout sur la planète avec le message de l'Évangile, sauf à deux endroits précis. En Corée du Nord, vous comprenez pourquoi, et dans une petite principauté au nord de l'Italie dont le nom m'échappe. Mais dans tout le reste de l'humanité, l'Évangile est présent sur les médias sociaux, dans nos conférences, dans les choses que nous offrons. Et le Christ a bien dit, il dit, cette bonne nouvelle-là, du fait qu'il y a un autre monde qui s'en vient, quand je vais revenir, là, il dit, ça va être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, pour avertir, pour servir de témoignage, pas pour convertir le monde, ce n'est pas le temps encore. Pour convertir le monde, ce sera après son retour. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin de quoi? Je pense que vous n'avez pas de misère à l'imaginer. La fin de toutes les misères humaines, de toutes les guerres. La fin des injustices. Et on va voir se produire ce qui est annoncé dans une autre prophétie et que l'Église a la responsabilité de faire connaître, Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Verset 11. Jérusalem sera en sécurité, alors que Jérusalem ne l'est pas et qu'elle sera bientôt encerclée par les armées, comme ça a été annoncé, comme c'est arrivé déjà dans le passé, en l'an 70, et comme ça va revenir à notre époque, du temps du vécu de la plupart d'entre nous ici. Et après, il dit au verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, à Jérusalem, et pour célébrer, quoi? La fête des tabernacles. » La belle fête que nous observons depuis que Dieu nous a appelés et qu'on célèbre avec reconnaissance chaque année. Vous irez voir dans Daniel 7, verset 27, où il est question du gouvernement mondial qui s'en vient. C'est vraiment formidable. Daniel 7, verset 27, ça décrit le règne du Christ avec son équipe. ceux qui forment son corps, qui vont être fidèles jusqu'au bout. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. La gouvernance de l'ensemble de l'humanité, de tous les pays, de toutes les nations. Son règne est un règne éternel. Voyez-vous, ça va être établi définitivement, parce que le premier millénium du règne de Christ, c'est simplement le point initial. Dieu ne nous révèle pas encore tout ce qui vient par la suite, mais c'est vraiment formidable. Et à ce moment-là, tous les êtres humains qui vont survivre à la Troisième Guerre mondiale et à la Grande Détresse, il n'y en aura pas un nombre énorme, mais ceux qui auront survécu vont être appelés par le Père. Là, ils vont être attirés vers le Christ. Le Christ lui-même sera à Jérusalem. Et là, Dieu va ouvrir la petite fenêtre qu'il a ouverte, dans mon cas, il y a 45 ou 46 ans passés. Ça sera le cas pour tous les êtres humains. Dieu ne laisse personne derrière. Dieu est un Dieu juste. Tous vont être appelés par le Père. Et vous savez quoi? À ce moment-là, tous vont vouloir changer les étapes des appelés que je vous disais tantôt. Là. Ça va s'appliquer à eux autres à ce moment-là. Dieu va les appeler, et comme ils auront passé à travers la grande détresse, ils vont être disposés à être enseignés et à trouver une meilleure formule pour organiser leur vie et organiser leur système autour. Formidable! Dieu est un Dieu patient, mais son plan est précis et il l'accomplit. Les gens vont vouloir changer de conduite. Ça vaut la peine d'aller dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. C'est un verset que j'aime à utiliser dans les émissions de télévision parce que ça donne une perspective sur ce qui s'en vient, comment les nations à ce moment-là enfin vont comprendre. Parce qu'elles seront appelées. Ésaïe chapitre 2, on va lire du verset 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps. Quand il parle de la suite des temps, c'est le temps de la fin, là. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, ça c'est le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, ça sera au-dessus de tous les autres gouvernements. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les plus petits gouvernements. Et que toutes les nations y afflueront. Vous avez bien lu, là. Toutes les nations de la terre vont se tourner vers le gouvernement de Dieu. À ce moment-là, ils vont vouloir le faire. Alors que maintenant, non seulement ils ne veulent pas le faire, mais ils rejettent Dieu, ils se moquent de Dieu. Dieu va les laisser aller jusqu'au bout de leur folie. Et après, ceux qui seront survivants vont être disposés à comprendre. Et il dit, « Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Pourquoi? « Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Ils vont désirer mettre en pratique les choses que vous avez commencé à mettre en pratique. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, les commandements de Dieu, ses fêtes, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce sera le quartier général du Christ et de son équipe, de ceux d'entre nous qui auront persévéré jusqu'à la fin. Tous seront appelés à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que, en ce qui concerne le petit troupeau de Dieu qui accomplit son œuvre, qui soutient l'Église, qui travaille à changer, Dieu a des promesses extraordinaires aussi. Non seulement l'héritage de la terre et des nations, mais il y a une promesse à ceux qui sont appelés d'être protégés durant la grande détresse qui s'en vient. Vous irez lire Apocalypse 3, verset 10. La vraie Église de Dieu sera protégée lors de la grande détresse qui va durer 3 années et demie, comme nous allons voir. Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Et ce n'est pas facile toujours d'être persévérant dans les voies de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, on perd des choses. Il y a des gens qui ont perdu un conjoint en cours de route parce que le conjoint ne voulait plus, suivre ces choses-là ou ne voulait plus même habiter avec la personne qui était de l'Église ou tout ça. Mais la personne qui était dans l'Église a continué. Et ces personnes-là, s'ils persévèrent encore jusqu'à la fin, vont être protégées. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi. Je te protégerai aussi à l'heure de l'épreuve, de la tentation, qui va venir sur le monde entier, la grande détresse, sans pareil, pour éprouver les habitants de la terre. Dieu promet sa protection. C'est encore répété d'une autre façon à Apocalypse 12, verset 14. Notez, Apocalypse 12, verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle, c'est une figure de style, c'est un symbole, furent données à la femme, à l'Église, Le mot femme est symbole d'une église dans la Bible. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Pourquoi? Afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, un lieu que Dieu connaît, qu'il déterminera le temps venu, on ne sait pas au juste où c'est, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, du petit Dieu de ce siècle qui veut détruire l'Église, qui a voulu détruire le Christ lorsqu'il est né, il a fait tuer les enfants autour, vous vous rappelez, et qui a fait tuer le Christ lorsqu'il est venu, mais c'était dans le plan de Dieu, c'était pas une surprise, et qui va essayer de détruire le Christ lorsqu'il reviendra dans la gloire, parce qu'il va se tourner vers contre lui avec les armées du monde. Ils ne feront pas long feu. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année. Une année, deux années et la moitié d'une année. Trois années et demie. Vous pourrez aller voir encore dans Psaume 33, versets 18 et 19. Ça parle un peu de la même chose. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Pas qui ont peur de Dieu, mais qui respectent ce qu'il dit, qui ont cette crainte respectueuse, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu va prendre soin de ses tout-petits. C'est un bon père de famille. Un autre point aussi que vous allez voir, probablement la plupart d'entre vous, c'est que l'Église de Dieu annonce que durant ces trois années et demie de grande détresse sur toute la terre, il y a une autre prophétie très spéciale qui va se réaliser. Et l'Église de Dieu est informée de ça. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent pour qu'on donne ces informations-là. Vous allez voir, c'est qu'il y aura deux ministres de l'Église de Dieu. Il y aura deux ministres de l'Église de Dieu. Dieu va les désigner le temps venu. Il y aura deux ministres de l'Église de Dieu qui vont annoncer l'Évangile avec éclat à partir de Jérusalem durant les trois années et demie de la grande détresse. Ceux que Dieu appelle ces deux témoins du temps de la fin. Et ils vont faire de grands prodiges, de grands miracles, comme Moïse a fait. Même pour changer des eaux en sang, comme Moïse a fait. Et ce sera la signature de Dieu sur le travail de ses deux serviteurs. Vous irez lire dans Apocalypse 11, versets 2 et 3. Apocalypse 11, versets 2 et 3. « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte, Jérusalem, pendant 42 mois. » C'est combien de temps, 42 mois, en termes d'années? Trois années et demie. OK? La ville sainte sera encore envahie par les armées. Les nations vont fouler aux pieds la ville de Jérusalem pendant 42 mois. Il y aura encore captivité. Les Juifs seront encore amenés en captivité, de même que les descendants encore vivants de nos nations, des descendants israélites. Et là, Dieu dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. » Dieu va susciter ces deux hommes-là, va leur donner une puissance particulière, sa puissance, pour accomplir ça. Et ils vont faire ce travail-là pendant 1260 jours. Faites le calcul. C'est 42 mois. C'est trois ans et demi. Tout ça tombe exactement en place. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, comme Élie avait fait. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et ce sera la proclamation la plus éclatante de l'Évangile dans l'histoire. Parce que vous allez avoir à ce moment-là tous les médias de la terre qui vont être là régulièrement pour suivre chacune de leurs déclarations et pour filmer en direct les miracles qu'ils vont faire. Et ce sera de la part de Dieu un témoignage éclatant de sa majesté et en même temps l'explication du pourquoi toutes ces choses tombent sur le monde. Parce que le monde a rejeté totalement Dieu depuis le tout début de la création à partir d'Adam et Ève. Ils ont formé leur propre système d'éducation, leur propre système financier, leur philosophie, toutes les religions imaginables ou sans religion, mais sans Dieu, sans le vrai Dieu. Mais Dieu dit, maintenant, vous allez savoir que j'existe et ils sauront que je suis l'Éternel. Parce que ce sera clair, il n'y aura plus aucun doute possible à ce moment-là. Et ces deux hommes-là vont parler avec une force jamais vue et ils vont proclamer l'Évangile. Et ce sera alors que le Christ reviendra. Formidable. Vous imaginez un peu, il arrive un événement dans le monde, soit en Californie ou en Australie ou tout ça, un événement, il y en a malheureusement des événements tristes là, qui viennent d'arriver, des tueries qu'il y a eu et tout ça, et tout de suite, vous avez les médias qui sont là, vous avez ça sur Internet, vous avez ça sur YouTube, vous avez ça sur Facebook et tout ça, presque instantanément. Ça ne sera pas différent, parce que ça va être encore plus éclatant que les nouvelles qu'on peut voir maintenant. Et en plus, vous irez voir le contexte, c'est que Dieu va permettre que ces deux hommes-là soient assassinés, soient tués sur la place publique. Et à ce moment-là, au bout d'un temps fixé, de 3 jours, je pense, 3 jours, 3 jours et demi, ils vont ressusciter, mais imaginez les caméras qui vont suivre aussi. Alors, ce sera le témoignage puissant de la part de Dieu juste avant le retour de Christ. Alors, voyez-vous, les événements mondiaux nous montrent que l'actuelle société, elle approche rapidement de sa fin. Je ne vous donne pas de détails, vous les connaissez. Les terribles événements de la grande détresse vont bientôt frapper la terre entière. Et il y a un autre élément qui va se produire avant ça aussi, c'est qu'il y aura famine de la parole de Dieu. À un moment donné, nous aurons terminé d'annoncer l'Évangile au monde en tant que Église organisée. Il y aura les deux témoins qui vont le faire, mais la parole de Dieu ne sera plus disponible dans les pays comme elle l'est maintenant. C'est pour ça que le Christ a dit dans Jean 9, verset 4, « La nuit vient où personne ne peut travailler. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Et la famine de la parole, vous pouvez voir ça dans Amos 8, versets 11 et 12. Amos 8, versets 11 et 12. Alors, voilà tout ce que la petite Église du Dieu vivant a la responsabilité de vous faire connaître. Et moi, j'avais la responsabilité aujourd'hui de vous donner le plus d'éléments possibles qui permettent d'identifier quelle est cette petite Église qui appartient au Christ, celle qu'il a fondée, celle avec qui il travaille jusqu'à la fin. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de cette société. Et il est avec nous, on le sait, on le voit, il ouvre les portes qu'il veut ouvrir. Et nous, on a à travailler pour y entrer. Alors, on a la responsabilité de vous faire connaître ces choses-là. Voilà ce que je vous ai annoncé aujourd'hui à partir de ce que déclare officiellement la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Vérifiez ces choses vous-même. Vous, les anciens dans l'Église, revoyez la suite des choses que je vous ai données. Quand on le fait, moi, je l'ai fait en préparant ça, et ça nous fortifie. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vous, les anciens, faites-le. Vous, les nouveaux, reprenez les versets que je vous ai donnés et solidifiez votre recherche. Allez de l'avant, avancez. Demandez à Dieu de vous donner la puissance de son Saint-Esprit pour être capable de faire sa volonté et de vous mettre réellement en marche vers l'immortalité, vers le salut.